Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ et je porte la salutation d'une église sœur des États-Unis. Le pasteur m'a écrit pour dire qu'ils vont prier pour nous aujourd'hui et pour la France. Et j'imagine que presque tout le monde a la même question dans la tête. Comment réagir? Quelle réponse dois-je avoir? Et je veux partager avec vous quatre pensées. C'est pas des pensées très profondes, mais c'est des pensées qui, bon, je crois et j'espère, qui s'accordent avec la Bible. Premièrement, il faut de la confiance en Dieu. Si nous sommes en Christ, nous n'avons aucune raison à craindre. Il ne faut pas craindre maintenant. Parce que Dieu, il est souverain sur tous. Jésus, il est élevé au-dessus de tout roi, toute puissance. Et il est notre sauveur et notre berger. N'ayez pas peur. La deuxième mot, qui commence aussi par le C, c'est la compassion. Nos amis, nos voisins, nos collègues, nos camarades, ils sont troublés maintenant. Et ils ont raison. Il faut de la compassion pour eux. Il faut que nous essayions de compatir, d'avoir un sens, oui, nous sommes avec vous. Et nous ne voulons pas que vous souffriez. Dans leur souffrance, ayons de la compassion. Le troisième, c'est le courage. Le courage, c'est différent de la confiance. Nous, en tant que chrétiens, nous avons besoin du courage pour partager la bonne nouvelle de Jésus-Christ avec le monde. Même si on pense que tous qui sont religieux sont des fanatiques. Il faut partager Jésus-Christ et sa vie avec nos amis. Bon. Confiance, la compassion, le courage. Et si vous êtes venu ce matin sans Christ, vous êtes troublé, vous pensez le monde est devenu fou, il y a un autre c'est pour vous, il faut croire. Il faut croire que Dieu existe. Qui nous aime, qu'il a envoyé son Fils pour être notre Sauveur. Et ce matin, Dieu nous a donné, à Elisabeth et moi, l'occasion de parler avec notre voisine. Elle est troublée, elle nous a dit, oui, le monde est devenu fou, je ne veux pas laisser le monde comme ça pour mes enfants, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Il faut être en solidarité avec les autres, il faut espérer. Et nous avons eu l'occasion de dire oui, il faut croire en Dieu. Et elle a répondu oui, il faut croire, je pense qu'elle a dit, il faut croire en le bon. D'accord? mais nous avons un message qui est beaucoup plus précis que ça. C'est pas le bon dans l'abstrait. C'est le Dieu qui est concret, qui existe et qui est venu pour nous aider, pour nous sauver. Et quelques pensées. Confiance en Dieu, compassion pour eux, le courage de partager la bonne nouvelle et croire en Dieu si vous n'êtes pas chrétien. Bon, ce matin, on commence une autre partie de notre étude du thème « Le vrai disciple de Christ ». On va considérer Galates chapitre 2, c'est page qui se trouve en page 763, si vous avez une Bible comme celui-là. 763. Le dimanche dernier, Albert a introduit un nouveau thème, le vrai disciple de Christ. Il nous a montré qu'un vrai disciple de Christ doit être à la fondation, à la base, né de nouveau. Il a dû recevoir la nouvelle vie de Dieu pour devenir un disciple de Christ. Galates chapitre 2 et versets 19 et 20. Ce matin, nous considérons le thème « Le vrai disciple de Christ et la vie du Maître ». Nous demanderons à la Bible quel est le lien entre la vie d'un disciple d'un côté et la vie de son Maître de l'autre côté. Sont-elles indépendantes l'une de l'autre? Ou bien l'une des vies est-elle dépendante de l'autre? Ou est-ce qu'il y a une autre façon de décrire leur relation? Il est certain, n'est-ce pas, pour tous qui sont des chrétiens, il est certain que la vie d'un disciple n'est pas du tout indépendante de la vie du maître. Et nous allons voir que le mot « dépendant » ne suffit pas pour décrire le lien entre les deux vies. Dans le Nouveau Testament, nous trouvons une relation qui est beaucoup plus intime qu'une relation de dépendance. Jésus lui-même montre la profondeur du lien entre lui-même et son disciple en disant ces mots. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Jean chapitre 15, verset 4. Comme Paul explique en Romains chapitre 8, versets 9 et 10, cette habitation se produit par l'Esprit qui demeure en chaque disciple. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'Esprit est vie à cause de la justice. Vous voyez ce qu'il a dit ici. Si l'Esprit de Christ est en vous, c'est égal au fait que Christ lui-même est en vous. Grâce à ces passages et beaucoup d'autres dans la Bible, les chrétiens du passé ont choisi le mot « l'union » pour décrire le lien entre la vie d'un disciple et la vie du Christ. Ce n'est pas deux vies indépendantes, ce n'est pas une vie qui est dépendant sur une autre vie, c'est en fait une union entre deux vies. C'est l'union avec Christ. La vie du maître et la vie de son disciple sont unifiées. Comme un pasteur du XVIIIe siècle a écrit, la vraie religion est une union de l'âme avec Dieu, une participation réelle à la nature divine, l'image de Dieu gravée sur l'âme ou, selon l'expression de l'apôtre, c'est la Christ formée en nous. Cela est une très belle idée, n'est-ce pas? Mais comment elle fonctionne dans la vie quotidienne n'est pas toujours évident. Je trouve. Que signifie cette union quand je suis en train de faire le ménage à la maison? Ou quand je suis au bureau? Ou quand je suis dans ma classe à l'école? Quelle est la signification? Pour trouver une réponse à ces questions, regardons maintenant Galates chapitre 2 et on va lire versets 15 à 20. Galates chapitre 2, on commence verset 15 et on lit jusqu'au verset 20. Nous sommes juifs de naissance. C'est Paul qui parle ici à Pierre. Nous sommes juifs de naissance et non pécheurs d'entre les païens. C'est-à-dire, les juifs sont ceux qui sont avec Dieu et les païens. Ils sont hors de l'alliance avec Dieu. Néanmoins, sachant que ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié, mais par la foi en Jésus-Christ. Nous aussi, nous avons cru en Jésus-Christ afin d'être justifiés par la foi en Christ et non par les œuvres de la loi. Parce que nulle chair ne sera justifiée par les œuvres de la loi. Mais tandis que nous cherchons à être justifiés par Christ, si nous étions aussi nous-mêmes trouvés pécheurs, Christ serait-il un ministre du péché? Loin de là. Car si je rebâtis les choses que j'ai détruites, je me constitue moi-même un transgresseur. Car c'est par la loi que je suis mort à la loi, afin de vivre pour Dieu. Et notre texte pour ce matin, j'ai été crucifié avec Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Je ne rejette pas la grâce de Dieu, car si la justice s'obtient par la loi, Christ est donc mort en vain. Ce sont les mots de Dieu pour nous. Nous allons considérer trois vérités qui nous éclairent sur comment cette union fonctionne dans la vie quotidienne d'un disciple. Pour nous aider à les retenir, je résume ces trois vérités en trois mots. La présence, l'effort et la foi. D'accord? Ces trois mots. La présence, l'effort et la foi. La présence, c'est-à-dire la vie d'un disciple, un vrai disciple est en fait la vie du maître. Paul dit que c'est Christ qui vit en moi. Regardez chapitre 2, verset 20. Paul dit, j'ai été crucifié avec Christ, ça c'est l'union, nous sommes avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Bon, ça c'est le Louis II, et je n'aime pas trop cette traduction à cause des mots « et si je vis », parce que c'est pas là, il ne se trouve pas au grec. Et je vous conseille d'indiquer dans vos Bibles, si vous avez un Louis II, d'une manière ou une autre, que ces mots ne sont pas dans la version originale. D'accord? Il dit, et je vis. Il ne doutait pas qu'il vivait. Hein? Maintenant, notons-nous deux vérités qui sont abondamment claires au verset 20. D'accord? Premièrement, la nouvelle vie dans le disciple est en réalité la vie du maître. Christ vit en moi, chaque chrétien. Paul nous explique, sous l'inspiration au Saint-Esprit, que l'union entre le maître et son disciple est plus qu'une idée abstraite. La vie du Christ est dans le disciple parce que le maître lui-même vit dans le disciple. Mais pourquoi Jésus est-il présent dans le disciple? Pourquoi? Cette présence est obligée parce que Jésus lui-même est la vie. Selon Jean chapitre 1, verset 4. C'est-à-dire, la nouvelle vie d'un disciple ne peut pas être séparée du Christ parce qu'il est lui-même la vie. Quand nous sommes convertis, et nous recevons la vie nouvelle, la nouvelle vie. C'est pas comme Jésus est sorti pour chercher une boîte de vie pour nous donner. Hein? C'est lui-même qui est la vie. Et maintenant, nous sommes unifiés avec lui. Et il est notre vie, la source de notre vie. La Bible dit, de Jésus en Jean chapitre 1, verset 4, que la vie est en lui, Jésus. Et un peu plus tard, en Jean chapitre 5, verset 25 à 26, Jésus dit, en vérité, je vous le dis, L'heure vient, elle est déjà venue, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendu vivront. Pourquoi? Car, comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Jésus lui-même est la vie. Et plus tard, Jésus enseigne que sa vie sera dans ses vrais disciples. Selon Jean chapitre 15, verset 5. D'accord? Jésus dit, « Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Comme la vie du cep est présente dans les sarments, la vie du Christ se produit en ses disciples, parce qu'il est là, par son esprit. Et quel est le lien entre la vie d'un disciple, un vrai disciple et la vie du maître? La vie du maître est dans le disciple. Cette vérité a dirigé un théologien à dire ceci. Il est important d'affirmer, sur la base de ces versets, que l'habitation de Christ en nous est réelle et personnelle, et que cela ne signifie pas que nous sommes simplement d'accord avec lui ou que ses pensées sont en nous. C'est lui qui est en nous et qui demeure en nous par la foi. Oublier cette vérité serait négliger la source intarissable, c'est-à-dire inexhaustible, de force spirituelle que nous avons en nous. Quel est le lien entre la vie d'un disciple et la vie du maître? On peut le décrire avec le mot, par le mot l'union. Quelle est l'union? C'est l'union indique que la vie du maître est en fait la vie qui se trouve dans le disciple. Ça, c'est le premier point. Et ensuite, on peut dire, deuxième mot, il faut conclure que cette vie du maître dans un disciple ne peut pas, à coup sûr, être en désaccord avec la vie du maître. Vous voyez ce que je veux dire? Si la vie de Jésus est en moi. Cette vie de Jésus qui est en moi ne peut pas être en désaccord avec la vie de Jésus qui se trouve dans la Bible. Ou la vie de Jésus lui-même. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas possible. Et quelle est la nature du maître? Quelle était sa vie terrestre? La vie de Jésus est caractérisée par l'obéissance parfaite au Père. Jésus dit en Jean chapitre 8, verset 29, « Je fais toujours ce que lui, c'est le Père, est agréable. » La perfection. En Hébreux chapitre 4, verset 15, nous lisons que Jésus est tenté comme nous, mais sans commettre de péché. Il ne s'est jamais rebellé contre Dieu. Et Pierre, en 1 Pierre, chapitre 2, verset 22, nous dit que Jésus n'a point commis de péché. Il n'a jamais vécu selon la chair. Il serait absurde de postuler que la vie que Jésus vit en moi aujourd'hui ne s'accorde pas avec son caractère et sa vie terrestre. En résumé, ça c'est le premier point. En résumé, la nouvelle vie d'un disciple est en vérité la vie du Maître, Jésus-Christ. Et cette vie est sainte et pure parce qu'elle est la vie de Jésus. Quand Paul dit, Jésus vit en moi. C'est un peu franglais là. Quand Jésus vit en moi, il dit que la vie de Jésus est en moi. Et cette vie est parfaite et sainte. Mais si tout cela est vrai, un vrai disciple est par nécessité parfait parce que Jésus est parfait. Cela soulève tout de suite une question. Si je ne suis pas parfait, dois-je conclure que je ne suis pas un vrai disciple du Christ? Paul est-il en train d'enseigner la perfection des saints? Une autre question, comment ça marche? Comment la vie sainte de Jésus habite en moi et passe par moi? Un disciple n'est-il qu'un robot contrôlé par la volonté de son maître? Ces questions nous amènent à la prochaine partie du verset 20. Regardez verset 20, Galates chapitre 2, verset 20, où Paul dit, « Et ce que je vis maintenant dans la chair, selon la version d'Harry. » La première vérité est que la vie d'un disciple est en fait la vie du maître. La deuxième vérité se résume dans le mot l'effort. Le vrai disciple vit réellement sa propre vie. Je vis maintenant dans la chair. Paul affirme ici que c'est lui qui vit sa vie. Regardez la traduction de verset 20 qui est projetée sur le mur. Je pense que ça c'est plus proche au grec. Mais moi, je ne vis plus. Mais le Christ vit en moi. Mais ce que je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu. Notez d'abord l'usage du pronom personnel « je » au verset 20. D'accord? Paul dit deux choses qui sont en apparence contradictoires, n'est-ce pas? Je ne vis plus et je vis maintenant. Et comment accorder ces deux choses? Bon, comment interpréter ces deux affirmations apparemment opposées? Premièrement, il faut commencer par la supposition que Paul n'est pas stupide. Paul n'était pas stupide. Il aurait su, bien sûr, s'il s'était contredit en disant deux choses irréconciliables dans une seule phrase. D'accord? Il n'est pas stupide. Deuxièmement, il faut se rappeler que le Saint-Esprit a inspiré cette lettre. Et même si Paul pouvait se tromper, l'Esprit-Saint ne se trompe jamais. D'accord? Ça, c'est la base. Ça, c'est la base. Il faut commencer par ces deux choses. Mais troisièmement, notez l'accent mis sur Paul lui-même au début du verset 20. Mais moi, je ne vis plus. C'est l'accent mis sur lui-même. Paul veut dire que grâce à sa crucifixion avec Christ, il n'est plus le chef de sa vie. C'est Christ qui vit en lui, c'est-à-dire le maître règne dans sa vie jusqu'au point où on peut dire que c'est la vie du maître qui se produit en Paul. Et c'est pas vraiment Paul qui vit, même si c'est Paul qui vit. Vous voyez ce que je veux dire? Et la Bible dit, plutôt. Il n'y a pas une contradiction ici. Mais quatrièmement, Paul suit la première affirmation en disant qu'il vit toujours sa propre vie dans le temps présent. Nous ne pouvons pas dire que la vie de Christ dans un disciple est une forme de sainte possession. Par exemple, ce n'est pas correct de penser que Jésus contourne la volonté de ses disciples afin qu'ils fassent n'importe quoi d'une manière automatique ou robotique. Même si Paul dit « Christ vit en lui », il peut affirmer aussi qu'il vit sa vie maintenant dans la chair. Et cette affirmation est en accord avec l'enseignement de Paul dans ses autres lettres. Je vais vous montrer deux exemples. Regardez Philippiens chapitre 2. Philippiens chapitre 2, versets 12 à 13 dans vos Bibles. Philippiens 2, chapitre 12 à 13. « Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Au verset 13, Paul dit que c'est Dieu qui produit en eux le vouloir et le faire selon son bon plaisir. C'est-à-dire, il veut. Cette affirmation correspond au fait que Christ vit en Paul en Galates chapitre 2. Dieu est l'instigateur de leurs désirs et leurs efforts. Cela en fait-il des robots sans volonté? Vous voyez ce que je veux dire? D'accord. Regardez maintenant au verset 12. Qui doit travailler à leur salut avec crainte et tremblement? Ce sont eux, les croyants. Cet impératif correspond au fait que c'est Paul qui vit maintenant dans la chair en Galates. Ils sont responsables de vivre d'une manière cohérente avec leur salut. Et ensuite, regardons Colossiens chapitre 3, versets 1 à 5. Colossiens chapitre 3, versets 1 à 5. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, ça c'est notre union avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts en Christ grâce à votre union avec Christ. Et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. C'est notre union. Encore une fois, quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre. Encore une fois, nous voyons qu'ils sont en union avec Christ, morts avec Christ, ressuscités avec lui et cachés en lui. Christ est leur vie. Et ils ont toujours, en même temps, la responsabilité de mettre leurs affections en haut et de faire mourir les membres qui sont sur la terre. D'accord? Nous devons conclure que, même si le maître vit en un disciple, le disciple a la responsabilité de vivre d'une manière cohérente avec la vie du maître. Voilà. C'est des choses un peu profondes, mais elles sont là dans la Bible. Le maître et son disciple sont unifiés. La vie du maître est dans le disciple et le disciple doit vivre selon la vie du maître qui est en lui. Bon, le disciple doit travailler ou faire des efforts, mais ça sera facile au moment si la vie du maître est en lui, n'est-ce pas? J'ose dire qu'il n'y a pas un chrétien dans cette salle qui peut dire que la vie chrétienne est facile, même si la vie du maître est au-dedans de lui. Pourquoi? C'est la logique, hein? Si Jésus est en moi, et si c'est sa vie en moi, pourquoi je lutte? Pourquoi je chute? Regardez à nouveau Galates chapitre 2, verset 20. Galates chapitre 2, verset 20. Où est-ce qu'il vit maintenant? Il vit où? Il vit dans la chair. Il vit dans la chair. Il faut noter d'abord que la chair ici n'est pas égale à la chair de Romains chapitre 8, versets 7 à 8, où Paul fait référence à l'état non régénéré. Là, il écrit que l'affection de la chair est inimitié contre Dieu. parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. On sait que Paul n'est pas en train de traiter l'état non régénéré parce qu'il a déjà dit « J'ai été crucifié avec Christ et Christ vit en moi ». D'accord? Je pense que ça, c'est vraiment clair. Mais si la chair n'indique pas l'état non régénéré, la chair y croit. Bon. La chair ici doit visiblement faire référence au corps humain qui est faible et déchu. Le corps humain qui est faible et déchu. Pensez au jardin de Gethsémané, juste avant l'arrêt de Jésus. Jésus prie, mais ses disciples dorment. Pourquoi? Jésus, selon Jésus, en Matthieu, chapitre 26, versets 40 et 41, ils dorment parce que la chair est faible, même si leurs esprits sont bien disposés. La faiblesse de la chair d'un disciple est un facteur qui empêche ses efforts de vivre selon la vie du Maître qui est en lui. Vous voyez? Nous voulons, mais nous sommes faibles. La fatigue, la maladie et la douleur peuvent rendre difficile la manifestation de la vie du Maître dans la vie d'un disciple. Ça, c'est notre chair. Nous vivons dans la chair. De plus, il y a dans la chair une loi qui penche envers le mal. Paul dit en Romains chapitre 7, versets 18 à 21, « Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi. » C'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Il y a un pasteur anglais qui s'appelle John Owen, qui dit « Notre ennemi est non seulement sur nous, et ça c'est grave, mais comme dans le cas de Samson, mais il est aussi en nous. Pas seulement sur nous, il est en nous. » Ça, c'est plus grave. Plus grave. Et Jacques, il nous dit que la chair est la source de nos tentations. Chapitre 1, verset 14. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Quand nous sommes tentés, nous ne pouvons pas blâmer des choses extérieures à nous. Ce sont nos propres chairs et leurs désirs qui nous attirent vers le mal. Bon, faisons un petit résumé, d'accord? Petit résumé maintenant. Hein? Respire. Voilà. Nous sommes en train d'examiner comment notre union avec le Christ se déroule dans la vie chrétienne en considérant trois mots. La présence, l'effort et quoi? La foi. Nous avons déjà vu que le Maître Jésus est réellement présent en chaque chrétien avec le résultat que la vie d'un disciple est la vie du Maître. Christ vit en moi. Nous avons aussi vu que le disciple vit sa propre vie, même si sa vie est la vie du Maître. Le disciple est responsable de faire des efforts afin de s'accorder avec la vie de son Maître en luttant contre sa propre chair, qui est faible et qui résiste au chemin du Christ. Et comme chaque chrétien le sait par expérience, cette faiblesse et cette résistance nous font obstacle d'une manière continuelle est vraiment efficace. Et souvent, nous sommes provoqués à dire avec Paul, à cause de nos échecs spirituels, « Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort ?» À la lumière de notre chair faible et récalcitrante, comment un vrai disciple peut-il vivre d'une manière qui soit en accord avec la vie du Maître qui est en lui? Comment, hein? Cette question soulève notre troisième mot, la foi. La foi. Regardez à nouveau Galates chapitre 2, verset 20. Premièrement, Paul parle de la présence de Jésus. Moi, je ne vis plus, mais le Christ vit en moi. Deuxièmement, Paul fait référence à ses propres efforts, mais la vie que je vis maintenant dans la chair. Et troisièmement, Paul mentionne la foi. Je vis dans la foi au Fils de Dieu. Le troisième point, la foi. Le troisième aspect de l'union avec Christ est que la vie du Maître dans le vrai disciple se produit par la foi. Malgré l'opposition de la chair, un disciple peut vivre d'une manière qui est en accord avec la vie du Maître en choisissant continuellement de croire en Jésus-Christ. Cette affirmation, à mon avis, demande un peu d'explication. Comment la foi nous aide, hein? Quelle est la foi et comment la foi nous aide-t-elle à nous conformer à la vie du Maître? Ces deux questions trouvent leur réponse dans la nature de la foi. D'accord? La foi comporte deux idées. D'accord? La soumission et la dépendance. La foi comporte deux idées, la soumission et la dépendance. Premièrement, croire quelqu'un et de se mettre en soumission à lui, soit sa connaissance, soit sa capacité. Pensez à une situation banale qui arrive souvent. On se trouve un peu perdu à Paris. On demande à un inconnu s'il peut nous indiquer comment aller à la destination. Et après, on se soumet à ses indications, c'est-à-dire, on le croit. On le croit. Ou prenez par exemple le récit qui se trouve en Luc chapitre 5, versets 4 à 5. Jésus, il est, après avoir enseigné la foule, lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, « Avance en plein eau et jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui répondit, « Maître, nous sommes des pêcheurs. » Oui, dans les deux sens. Hein. « Nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. » Avant que Simon ait jeté ses filets, il a dû choisir de mettre son opinion sous l'opinion de son maître. Il dit, en effet, moi, j'accepte que le maître sache mieux que moi. Je vais faire sa volonté. Sa foi dans son maître le pousse à faire la volonté du Christ. De même manière, aujourd'hui, nous suivons le chemin du Maître en nous soumettant à sa volonté, c'est-à-dire croyant que c'est mieux que nous. Pour répondre à la question « Comment la foi nous aide-t-elle à nous conformer à la vie du Maître ?», nous pouvons dire qu'une disposition à se soumettre aux indications du Maître nous aide à vivre d'une manière qui s'accorde avec sa vie en nous. C'est beaucoup de mots, hein. Comment la foi nous aide-t-elle à nous conformer à la vie du Maître? une disposition à se soumettre aux indications du Maître nous aide à vivre d'une manière qui s'accorde avec sa vie en nous. Et un dernier mot sur ce point. Il faut connaître la volonté du Seigneur avant qu'on puisse s'y soumettre. Bon, c'est logique. C'est pas vraiment profond. On ne peut pas se soumettre à l'inconnu. Si nous nous trouvons souvent confondus et perplexes en ce qui concerne la volonté de Jésus, il est fort probable que nous ne connaissons pas son enseignement. Retournons-nous souvent à la Bible. Ouais, ça c'est nécessaire. Le deuxième aspect de la foi, le premier aspect c'est quoi? La soumission. La deuxième est la dépendance. Nous pouvons considérer une autre scène de la vie de Pierre pour voir un exemple frappant de cet aspect de la foi. En Matthieu 14, on lit le récit très connu où Pierre marche sur l'eau. Pierre lui répondit à Jésus, « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aie vers toi sur les eaux. » Et il dit, « Viens. » Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à enfoncer, il s'écria, « Seigneur, sauve-moi !» Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Quand Pierre est dépendant de Jésus, il ne s'enfonce pas, soit quand il marche lui-même, soit quand il prend la main de Jésus. Sa foi s'exprime dans le fait qu'il met sa vie dans la main du Maître. Quand il doute que Jésus le soutient, il s'enfonce. Il y a un autre récit dans l'Évangile selon Marc qui nous montre d'une manière frappante aussi que la foi est en partie une expression de la dépendance. En Marc chapitre 9, on lit d'un père qui supplie le Seigneur à faire quelque chose, s'il peut, pour son fils qui souffre profondément. Et Jésus, il répond, « Si je peux, tout est possible à celui qui croit. » Et comment le père répondit-il? Il dit, « Je crois, mais viens au secours de mon incrédulité. Viens au secours de mon incrédulité. » Le père dit, « En effet, moi, j'admets que je n'ai pas la force pour croire sans doute. » Aide-moi, je suis dépendant de toi pour te croire. Ça, c'est le deuxième aspect de la foi. Frères et sœurs, comment la foi nous aide-t-elle à vivre d'une manière cohérente avec la vie du Maître qui est au-dedans de nous? La foi ne nous aide pas d'une façon mystique et incompréhensible. Souvent, on attend quelque chose de mystique, hein? La foi nous aide parce qu'elle est la soumission à la volonté d'un maître qui sait mieux que nous. Et parce qu'elle est la dépendance du soutien d'un maître qui est plus puissant que nous. La foi nous aide parce qu'elle est la soumission à la volonté d'un maître qui sait mieux que nous. Et parce qu'elle est la dépendance du soutien d'un maître qui est plus puissant que nous. Ça, c'est la foi. La foi nous aide. Mais vivre d'une manière qui s'accorde avec la vie de Jésus est difficile quand même, à cause de la chair. Et parfois, ou peut-être souvent, même quand je veux être dépendant de Jésus, ma chair m'oppose fortement et je trouve la vie du Maître trop dure à suivre. Comment je peux le faire quand je suis si faible? Ne désespérons-nous pas. L'Esprit du Maître nous aide. Ouais. En Galates chapitre 5, nous lisons que notre foi reçoit de l'aide du Saint-Esprit. Versets 16 à 17, Regardez ces versets dans la Bible. Je pense qu'ils sont vraiment, vraiment encourageants. Galates chapitre 5, versets 16 à 17. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Par ces versets, le Seigneur nous apprend trois choses importantes sur le combat spirituel dans la vie d'un disciple du Christ. Premièrement, la vie chrétienne est une question de désir. Verset 17. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Il faut examiner nos désirs. Deuxièmement, l'aide de l'Esprit Saint est toujours efficace quand nous le suivons. Et troisièmement, l'Esprit Saint s'oppose à notre chair continuellement. Ils sont opposés entre eux. D'accord. Comment appliquer ces trois vérités? Hein? Quelle est la première vérité? La présence réelle de Jésus dans la vie d'un disciple. Et la deuxième vérité? L'effort. L'effort de qui? Le disciple. Et le troisième mot, c'est quoi? La foi. Super. On a commencé avec la question, quel est le lien entre la vie d'un vrai disciple et la vie du maître? Et la réponse biblique est qu'elles sont unifiées. Et grâce à Galates chapitre 2, verset 20, nous voyons que cette union fonctionne dans la vie quotidienne selon trois vérités résumées par ces trois mots, la présence, l'effort et la foi. Maintenant, je veux diriger nos pensées envers l'application de ces trois vérités. Comment se déroule-t-elle dans la vie quotidienne? Comment appliquer d'abord la présence du Christ dans le disciple? Et nous pouvons le faire d'une manière positive et d'une manière négative. Je commence par le négatif. Si vous n'avez pas la vie du Christ en vous, vous n'êtes pas chrétienne. Ça, c'est clair. Être chrétien n'est pas adhérer aux doctrines chrétiennes. Être chrétien n'est pas une vie morale. Être chrétien n'est pas éprouver des émotions religieuses. Être chrétien est de recevoir la vie de Dieu en mettant la foi en Christ. Évaluez-vous vous-même. Demandez à Dieu de vous montrer si vous êtes vraiment unifié avec la vie de Dieu en Christ. Ça, c'est la première application. Mais ensuite, il y a un côté positif. Le vrai disciple a en lui une vie indestructible, la vie de son maître. Cela nous rassure à propos de la vie éternelle, mais ce fait nous donne aussi un soutien très, très efficace pour la vie présente. Comment pouvez-vous supporter les fardeaux angoissants ou des épreuves qui durent pendant des mois et des années? Pas par votre propre puissance. Comment pouvez-vous surmonter la faiblesse de votre propre chair qui freine vos efforts pour servir le Seigneur dans votre foyer ou parmi vos amis? Pas par votre propre puissance. D'où vient le triomphe sur les penchants de votre chair pour l'impureté, la colère, l'anxiété, l'envie, la paresse, l'amour du monde, l'égoïsme ou la gourmandise? Ça vient de nous? Non. Le mot que Jean dit contre les faux prophètes qui nient l'humanité du Christ est tout à fait applicable aux fausses voix qui disent aux chrétiens qu'ils ne peuvent pas triompher sur elles. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. C'est 1 Jean chapitre 4. Chers frères et sœurs, votre espérance pour la victoire ne vient pas de votre propre maîtrise de soi ou de vos tactiques. Soyez encouragés ce matin. La vie indestructible de Jésus est en vous, si vous êtes en Christ. Et vous pouvez vaincre la chair et le monde grâce à votre union avec le Maître. C'est possible. Il est possible d'être saint. Et ensuite, comment appliquer le fait qu'il faut faire des efforts? La Bible utilise plusieurs analogies différentes pour nous montrer comment nous devrons travailler pour être en accord avec la vie du Maître. Et permettez-moi de décrire l'une d'elles, d'accord? Une. En Éphésiens chapitre 4, Paul nous donne un processus de 3 étapes que je trouve très utile pour guider nos efforts de vivre d'une manière cohérente avec la vie du Maître. Au verset 20 à 24. Éphésiens chapitre 4. Nous lisons ces mots. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, si du moins vous l'avez entendu, et si, conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller, eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Le processus est dépouiller. Il faut faire un effort pour enlever de mauvaises pensées et de mauvaises habitudes. Si vous luttez contre les pensées ou les habitudes impures, dépouillez-vous de tous vos CD, MP3, quoi d'autre, vos films, vos livres, vos BD, vos magazines et jeux de vidéo où l'impurité est encouragée. Ouais, vous voyez, c'est pas trop compliqué, vraiment. Cessez d'aller dans les lieux où l'impureté est célébrée comme quelque chose d'admirable et agréable. Ouais. Dépouillez-vous de tout ce que vous faites shooter et re-shooter et re-shooter et re-shooter. Fouillez-les comme ils étaient des prédateurs violents. Ça, c'est le mot dépouiller. Et après, renouveler de plus. Il faut laisser la parole changer nos désirs. Comment? Il faut renouveler nos pensées par la mémorisation de l'enseignement de Jésus. La mémorisation mène à la méditation. Et la méditation sur la parole de Jésus met nos pensées en accord avec la vie de Jésus qui est en nous. Comment vaincre la colère qui arrive si souvent et si rapidement dans nos vies? Mémorisez les passages qui présentent la douceur de Jésus, même à la face de la méchanceté. Mémorisez les passages qui nous présentent la source de la colère, notre propre égoïsme. Mémorisez les psaumes qui racontent comment David a répondu à ceux qui lui font mal. Comme la Bible pénètre le cœur, les pensées sont changées. Et comme les pensées se renouvellent, nos réponses se transforment à l'image du Maître. Dépouiller, renouveler, revêtir. Il ne suffit pas de se dépouiller ni de se renouveler. Il faut aussi se revêtir. C'est-à-dire, il faut ajouter à votre vie, à ma vie, de bonnes pensées et de bonnes pratiques d'une manière systématique et exprès. Il n'est pas facile d'ajouter de bonnes habitudes. Normalement, c'est ce que j'ai entendu dire, il faut 60 jours pour établir une bonne habitude, mais un après-midi pour des mauvaises habitudes. C'est que 3 heures. Si, par exemple, l'esprit vous montre que vous avez besoin d'accorder votre vie avec la vie du maître en ajoutant la reconnaissance, vous pouvez déterminer, avec l'aide de l'esprit, d'exprimer votre reconnaissance avec 5 personnes différentes par jour pendant 60 jours afin d'établir l'habitude de reconnaissance. Bien sûr, voilà. Bien sûr, l'acte de se revêtir ne termine pas après 60 jours. Ouais. Je le sais, je le sais. Mais il faut le faire chaque jour après aussi. Mais je vous propose une idée pour comment commencer le processus de revêtement. Il faut commencer. Il faut ajouter des choses. Et finalement, comment pratiquer la foi? La Bible nous propose au moins 3 choses. Fouillez la Bible afin de savoir comment vivre. Il faut admettre, si nous ne savons pas ce que Jésus dit, nous ne pouvons pas vivre selon ce qui est dit. C'est logique. Lisez la Bible avec la supposition qu'elle est la vérité. Ce point de départ rend l'obéissance à la vie de Jésus beaucoup moins compliqué. Beaucoup moins compliqué. Deuxièmement, priez Dieu pour son aide. Notre dépendance de Dieu est exprimée dans nos requêtes pour l'aide de Dieu. On n'est pas obligé de cacher de Dieu nos défauts. Il connaît nos défauts déjà. Il faut dire, Jésus, je suis un homme de colère. Je ne veux pas être un homme de colère. Aide-moi, s'il te plaît, aide-moi. Et suivez, troisièmement, suivez l'application des Écritures à la vie par le Saint-Esprit. Il y a parmi nous certains qui pensent, pourquoi faire tous ces efforts? Bon, la motivation pour tout cela se trouve au verset 20. Regardez chapitre 2, Galates chapitre 2, verset 20, encore une fois. Galates 2, verset 20. À la fin du verset, Paul dit quoi? La foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Quelle est la motivation? C'est l'amour. Jésus et son sacrifice à la place des pécheurs est au centre du christianisme. Il est venu pour être puni par Dieu pour les péchés d'autrui, afin que les pécheurs puissent être sauvés de la punition leurs péchés méritent. Mais sauvés comment? Vous pouvez être sauvé par la foi en Jésus, le Fils de Dieu. C'est-à-dire, vous vous soumettez à lui. Vous dites que tout ce qui est dit de vous et de lui est vrai. Oui, je suis pécheur. Tu es Dieu. J'ai besoin de toi. Je suis d'accord. Et vous mettez votre confiance en lui. Il est votre seule espérance pour échapper à la punition que vos péchés méritent. Même vos péchés d'aujourd'hui. Si vous êtes une personne qui croit au Fils de Dieu, vous êtes un disciple qui est motivé de faire des efforts par la foi afin d'avoir une vie qui s'accorde avec la présence du Maître. Et que faire quand nous chutons? C'est toujours la même chose. Croire en Jésus et se repentir. Ouais, ça, c'est la bonne nouvelle pour nous, hein? Je suis maintenant pécheur. Je serai demain pécheur. Je mérite maintenant et à jamais la punition de Dieu parce que je ne suis pas digne d'être au royaume de Dieu. Mais Jésus est venu et il est mon sauveur. Et quand je chute, je crois. Il est mon sauveur. Et je me repente parce qu'il est le Dieu qui veut sauver. Frères et sœurs, il faut vivre pour le Seigneur parce que sa vie est en nous. Mais c'est difficile parce que nous vivons dans la chair. Mais merci, il y a un Dieu qui mérite et qui est digne de notre foi et qui peut nous aider de vivre une vie sainte et pure dans notre société. Prions ensemble. À celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire irrépréhensible et dans l'allégresse. À Dieu seul, notre Sauveur, par Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur, sois gloire, majesté, force et puissance, dès avant tous les temps, et maintenant, et dans tous les siècles. Amen.